Bonjour à tous, Angelina Lopez au micro de l'ICAN. Je vais modérer aujourd'hui le webinaire technique sur la spécification temporaire. Lorsque vous voulez nous lire une question, veuillez nous indiquer qui vous représentez le cas échéant. Commencez la question par question lorsque vous la soumettez par chat et pour les commentaires également. Vous commencez et finissez par question ou commentaire. Le webinaire d'aujourd'hui va couvrir un résumé de la spécification temporaire des données d'enregistrement des GTLD. Nous allons avoir une interprétation simultanée de ce webinaire dans les 6 langues des Nations Unies. Cyrus va vous présenter quelques informations préliminaires pour ce webinaire. Cyrus, si vous voulez vous présenter. Cyrus, au micro. Merci Angelina, merci à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, on voudrait vous donner les dernières informations concernant la spécification temporaire récemment adoptée par l'ICAN pour les données d'enregistrement des GTLD et dans quelle mesure cela a un impact sur les parties contractantes de l'ICAN. Nous aurons à la fin de ce séminaire suffisamment de temps pour poser des questions et y répondre lors de cette séance d'une heure. Afin d'être plus efficace, nous n'allons prendre que des questions par l'intermédiaire du chat Adobe Connect, de sorte de pouvoir prendre autant de questions que possible. Veuillez noter que nous continuons de penser que toutes les dispositions de la spécification temporaire continuent d'être valides et pertinentes et nous encourageons les parties contractantes à les mettre en œuvre. Nous n'avons pas de nouvelles concernant les aspects juridiques et nous vous invitons à consulter les conseils juridiques pour l'application de ce modèle. Nous aurons une discussion sur les transferts de domaine, les accords de données d'enregistrement, puis une séance questions-réponses. Une petite clause de nos responsabilités. Aujourd'hui, nous entendons. L'objectif est de vous donner un aperçu de haut niveau de la spécification temporaire des données d'enregistrement de GTLD et ne devrait pas être considéré comme un avis juridique. Des conseils pratiques sont inclus dans cette présentation à titre de suggestion pour la conformité vis-à-vis de la spécification temporaire et ne sont en aucun cas considérés comme garantie de la part des parties contractantes vis-à-vis de la conformité du RGPD. La spécification temporaire prévoit des exigences temporaires sur la manière dont l'ICAN et ses parties contractantes continueront d'être en conformité vis-à-vis des exigences contractuelles et des politiques liées à WHOIS ainsi qu'au RGPD. Cette spécification temporaire a été approuvée par le Conseil d'administration de l'ICAN le 17 mai 2018 et entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il peut s'appliquer jusqu'à un an et le Conseil d'administration peut le réaffirmer tous les 90 jours à partir du 25 mai 2018. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Rasmussen, directeur de la division Engagement. Russ, je vous cède la parole. Russ, au micro, merci beaucoup. L'une des questions essentielles de ce webinaire, c'est d'aider les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre à comprendre dans quelle mesure cela va affecter leurs activités. Il s'agit d'une question complexe et on va essayer de faire de notre mieux pour être le plus clair possible. Donc, tout d'abord, j'aimerais insister sur ce que vient de dire Cyrus. Cette spécification temporaire s'applique à toutes les parties contractantes, bureau d'enregistrement, opérateur de registre. Deuxièmement, la spécification temporaire ne change pas les exigences contractuelles par rapport à la collecte de données, rétention, transfert et obligation en termes d'entiercement. Et on va vous expliquer dans quelle mesure cela vous affecte en tant que partie contractante. Vous voyez ici un tableau, une matrice, où vous voyez les différentes sections spécifiques de cette spécification temporaire et vous voyez dans quelle mesure cela a un impact sur les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre avec des composantes en termes de disponibilité. D'abord, il faut s'assurer que l'accord d'enregistrement avec les bureaux d'enregistrement soit en conformité. Ça s'applique aux enregistrements existants et nouveaux. Par rapport à l'accord d'entiercement de données, on va en parler par la suite dans cette présentation, mais les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre vont devoir actualiser leur accord pour adapter leur libellé, leur rédaction, pour être en conformité vis-à-vis du RGPD. Des exigences sont impliquées dans cette spécification temporaire et il faut qu'ils les intègrent dans leurs opérations, ce qui inclut des sauvegardes pour les transferts de données internationaux. Ensuite, il y a un nouveau service d'annuaire de données d'enregistrement qui va entrer en vigueur. Et Cyrus va en parler plus tard dans cette présentation. Les opérateurs de registre devront actualiser leur accord d'accréditation ainsi que la rédaction de leurs accords pour être en conformité avec la spécification temporaire. Là encore, on va en parler par la suite. Et enfin, les opérateurs de registre devront modifier très certainement leur BRDA, donc accès aux données d'enregistrement de masse. Et Francisco, là encore, va en parler par la suite dans cette présentation. Donc là, c'était la liste de ce qu'il fallait faire et par rapport à la spécification temporaire, il y a une certaine souplesse pour s'adapter à ces modèles. Rédaction des données d'enregistrement requise si l'une des conditions contenues dans l'annexe A, section 2, est incluse, s'il y a un objectif commercial raisonnable ou si c'est faisable d'un point de vue technique. Ce qui comprend le fait que les bureaux d'enregistrement peuvent accepter l'option de publier davantage de données d'enregistrement s'ils sont mandatés pour avoir des capacités de recherche de WHOIS, également contact sous forme d'adresse mail anonymisée. La responsabilité ici, c'est de renvoyer vers le bureau d'enregistrement et trouver une adresse mail anonymisée. Donc, quelles sont les conditions stipulées dans la section 2.1 de l'annexe A, dans la RDDS? D'abord, il est important de savoir que ce qu'on entend ici, c'est maintenir le statu quo du WHOIS dans la mesure du possible. Donc, comme mentionné auparavant, la section prévoit trois critères, section 2 et 4, concernant l'accès aux données. Pour les données d'enregistrement, qui doivent s'appliquer donc. Mais les parties contractantes ont la possibilité d'appliquer cela plus largement lorsqu'il y a un objet, un motif commercial raisonnable ou qu'il n'y a pas de contraintes techniques. Ensuite, les parties contractantes doivent voir si il y a un RA, la requête provient de l'espace économique européen, ou si le titulaire de nom de domaine appartient à l'espace économique européen. Alors, accès aux données d'enregistrement non public, je vais en parler un peu plus avant sur cette diapo. Pour toute donnée qui est réduite, les conditions sont les suivantes. Il faut que les parties contractantes mettent en place un mécanisme pour l'enregistrement des données non publiques. D'abord, on a l'UDRP et URS qui sont contenus dans l'annexe E et D. Donc, si les données ne font pas partie du QIS public, si une requête arrive, il faut demander au bureau d'enregistrement pertinent et il est tenu de donner ces informations, de donner ces données. De la même manière, pour l'URS, il en va de la responsabilité de l'opérateur de registre s'il y a une requête et si ces données peuvent être trouvées dans le QIS public, alors l'opérateur de registre est tenu de donner ces données puisque la responsabilité de l'opérateur de registre, c'est de renvoyer vers le bureau d'enregistrement qui, à son tour, est tenu de donner ces données. Troisièmement, la conformité contractuelle de l'ICANN pour enquêter sur des plaintes en termes de conformité contractuelle. Les parties contractantes doivent donner ces données conformément aux requêtes formulées. Et enfin, requêtes provenant de tiers, comme figurant à la section 4 de l'annexe A, il faut donner un accès raisonnable aux tiers sur la base d'intérêts raisonnables tels que stipulés dans la section 4 de l'annexe A. Je vais maintenant céder la parole à Jennifer Scott de la division conformité contractuelle de l'ICANN qui va nous parler de la partie suivante. Jennifer au micro, merci Russ, je suis directrice à l'équipe de conformité contractuelle de l'ICANN. Pour récapituler cette spécification technique, effectivement, elle est entrée en vigueur le 25 mai 2018, donc elle est d'ores et déjà en vigueur, et tout comme toute autre politique ou accord de l'ICANN. Il s'agit d'exigences liées à la spécification temporaire. La portée ne s'étend pas à la conformité des parties contractantes et aux législations pertinentes en la matière. Il s'agit d'un intérêt limité. Nous allons poursuivre les mêmes processus et politiques en place à l'ICANN, ainsi que les obligations auxquelles sont tenues les parties contractantes, qui incluent les efforts internes et révision de processus pour les plaintes de tiers. Si les parties contractantes ne sont pas conformes aux exigences pertinentes, il faudra trouver au cas par cas une solution acceptable et je vais maintenant céder la parole pour plus de détails à ma collègue. Je vais vous parler donc des transferts. Alors, s'ils ne peuvent pas avoir accès aux données ou s'il s'agit de transfert, alors il faut s'en tenir à la spécification temporaire. Le bureau d'enregistrement n'est pas autorisé à obtenir l'autorisation telle que exigée auparavant au titre de la politique de transfert. Il faut noter un code d'autorisation valable et le bureau d'enregistrement va continuer à envoyer le formulaire pertinent pour autoriser ou refuser ce transfert. Si aucune action n'est entreprise vis-à-vis de ce transfert, ce transfert sera accepté par défaut et après 5 jours, après le début de ce transfert. Les informations concernant l'enregistrement ne seront pas transférées. Donc, le titulaire de nom de domaine doit, de manière indépendante, réintroduire les informations avec le nouveau bureau d'enregistrement, y compris les données concernant l'enregistrement, comme cela figure dans le RAA. Tout titulaire de nom de domaine l'opérateur de registre doit vérifier le code d'authentification fourni par le bureau d'enregistrement. Tout cela est stipulé dans la politique de résolution de litiges concernant les transferts. Caroline va également vous donner des informations concernant le URP, URS et la conformité à l'ICANN.
Ici Russ Weinstein. Désolée, on a inversé un petit peu l'ordre de prise de parole. Mais donc maintenant, nous allons parler des mises à jour obligatoires aux accords de traitement des données. Donc la spécification temporaire ajoute des dispositions entre l'ICANN et les parties contractantes. Et donc maintenant, il faut que les parties contractantes aient des accords supplémentaires, que ce soit les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement, donc leurs accords, ainsi que les différents fournisseurs et les parties contractantes. Donc voilà, c'est ce dont on va parler en termes de processus maintenant. Alors, section 6 de la spécification temporaire décrit les accords des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre, ou les contrats plutôt. Et donc l'idée, c'est d'ajouter des dispositions sur le traitement des données personnelles dans le cadre de ces contrats. Vous savez sans doute qu'il y a une procédure qui existe pour amender les contrats pour réduire un petit peu tout le travail et le coût. Et donc, il y a en fait un texte préapprouvé qui peut être utilisé pour les RAS des registres. Donc, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre ont généré ce texte et l'ont approuvé. Nous les remercions d'ailleurs de l'avoir fait. Nous en avons eu une copie lundi. Nous sommes en train de le passer en revue pour l'approuver. Une fois qu'il sera approuvé, donc ce texte sera disponible pour tous les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre. Donc il y aura davantage d'informations qui seront mises à disposition en termes de processus et de mise à disposition de ce texte. Comme je le mentionnais, si un opérateur souhaite utiliser ce texte préapprouvé, il faudra qu'il nous envoie une copie de ce RA actualisé pour certifier que l'amendement donc correspond bien au texte approuvé. Et donc tout ceci sera disponible sur le portail. Et donc il y aura mise en application du RRA et il ne sera pas nécessaire d'utiliser la procédure d'amendement, donc pas de, d'approbation nécessaire s'il y a conformité. Encore une fois, nous allons donc mettre au point les contacts, nous allons décider des contacts des différentes personnes et toutes les informations vous seront envoyées en temps et en heure, aussi rapidement que possible. Donc, autre chose, donc l'accord des services d'entièrement. Donc, la CAN est en train de travailler avec les fournisseurs d'entièrement des données pour mettre au point un texte. Ces accords, donc, il faut qu'ils soient conformes à l'article 28 du RGPD. Donc, les accords des services d'entièrement de données doivent donc contenir certains prérequis sur le traitement des données. Nous allons donc en parler un peu plus du processus. Donc, nous sommes en train de voir comment mettre à jour plus de 2500 contrats dans des délais appropriés. Donc, nous travaillons avec les fournisseurs et nous sommes également en contact avec les groupes d'opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement pour voir un petit peu comment procéder dans l'ordre et dans les temps. Lorsque nous aurons davantage d'informations là-dessus, nous vous en ferons part aussi rapidement que possible. Je vais maintenant passer la parole à Francisco qui va parler de certains aspects techniques auxquels il faut s'attendre. Bonjour, ici Francisco, je suis directeur des services techniques. Donc je vais parler des sujets du webinaire d'aujourd'hui, donc l'accès aux données d'enregistrement en masse et le protocole d'accès aux données d'enregistrement. Donc cette obligation s'applique à tous les registres GTLD, sauf pour celui du point name. Donc, le changement a pour objet de changer le contenu du BRDA. Donc, par le passé, on pouvait soumettre toutes les données, l'ensemble des données à l'ICANN. Ceci n'est pas conforme aux objectifs définis pour ces données. Donc, il va falloir changer ceci pour ne fournir que certaines données spécifiques dans les domaines qui sont autorisés. Et donc, vous pouvez trouver ceci dans la spécification temporaire qui, en fait, élimine toutes les données personnelles sur les coordonnées. Et donc, il est extrêmement important de le savoir du point de vue des opérateurs de registre. Donc, tout ceci s'applique à tous les registres avec l'exception du point name. Voilà, pour le BRDA. Donc maintenant, le RDAP. Donc c'est un protocole Internet qui remplace le WHOIS. Et donc la spécification temporaire signale que l'ICANN souhaite mettre en application le RDAP. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une mise en application conformément à certaines dates butoirs qui ont été fixées. Premièrement, les parties contractantes et les CAN doivent mettre en place leur contrat conformément à des profils RDAP-GTLD. Et donc, il y a différentes dates. Tout doit être terminé d'ici la fin juillet. Donc, en principe, le RDAP sera mis en place d'ici la fin du mois de décembre. Donc, il est très important de commencer à travailler à la mise en application du RDAP dès que possible. Vous pouvez le mettre en œuvre dès maintenant de votre propre manière, selon ce que vous souhaitez faire. Donc, on a un pilote RDAP qui existe. Nous devrions avoir davantage de données sur ce pilote pour vous dans les diapositives suivantes, mais donc vous pouvez en fait avoir votre propre mise en application du RDAP dès maintenant. Par contre, une fois qu'il y aura publication, eh bien vous devrez suivre le profil une fois qu'il sera publié de manière très conforme. Et donc, nous pensons que ce sera à la mi-décembre. Si vous êtes intéressé à la mise en place de ce profil ou au lancement donc des modifications au contrat, vous pouvez vous mettre en contact avec les responsables du RUIZ qui pourront donc vous inclure dans la discussion. Autre chose à prendre en considération. Il faut qu'il y ait une possibilité de faire des recherches, donc. Et donc, ceci devra être proposé dans le cadre du RDAP. Donc, c'est important pour les opérateurs de registre. Et donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que cette capacité de recherche ne semble pas proposer la fonctionnalité actuellement. Donc, c'est une fonctionnalité ajoutée au RDAP. Donc, cela fonctionne parce qu'il y a extensibilité du RDAP. Donc, vous allez devoir commencer ce processus de manière à apporter les changements nécessaires au RDAP. Alors, en ce qui concerne le profil du RDAP, donc je vais vous donner davantage de détails. Il faut mentionner que le profil a pour objectif de spécifier quelles sont les fonctionnalités du RDAP qui doivent être mises en œuvre, parce qu'en fait, le RDAP, c'est un peu comme un menu d'options. Donc, vous pouvez faire telle ou telle chose, mais par contre, il ne vous est pas dit quelle fonction activer. Donc, l'idée, c'est d'indiquer au bureau d'enregistrement et aux opérateurs de registre quelles sont les fonctionnalités, les options à activer par rapport à certains paramètres à prendre en compte. Alors, il y a une question. Est-ce que le RDAP est un protocole de communication entre les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre? Alors, il faut bien savoir que le RDAP, c'est un service public qui est proposé par les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Voilà, donc il faut bien le prendre en compte. En ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre du RDAP, fonctionnalité principale, donc déjà le pilote, donc qui a été mis en place ou lancé en septembre dernier avec différentes dates butoirs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc fin juillet, date très importante puisque le profil ou les profils d'ailleurs seront mis en place suite aux accords sur les prérequis des SLA et donc participer aux discussions là-dessus, c'est important. Donc en août, normalement, on devrait avoir la mise en œuvre du RDAP. Et en décembre, ce sera une obligation pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il est très important de commencer à travailler sur le RDAP dès maintenant, de commencer à voir un petit peu comment vous allez procéder, comment vous allez participer à la définition du profil. Il y a donc des obligations importantes. Il y a des informations disponibles sur la page RDAP ICANN. Donc, il y aura davantage d'informations par la suite. Mais donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu, voir ce que vous allez faire parce que c'est quelque chose qui va se produire au cours des mois à venir. Donc, commencez déjà à travailler. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes en avance déjà, eh bien, vous pouvez participer au pilote. Vous avez le lien ici sur cette diapositive. Alors, nous avons déjà 7 organismes qui sont impliqués, qui couvrent plus de 100 GTLD et qui sont déjà, qui ont en fait déjà un service RDAP à proposer. Vous pouvez vous joindre à la liste de diffusion pour toutes les discussions techniques. Et vous avez une liste de diffusion, de discussion sur le pilote RDAP. Et vous êtes les bienvenus sur cette liste. Si vous souhaitez participer aux questions spécifiques, il y a une liste de diffusion spécifique qui a été mise en place par les responsables des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre. En ce qui concerne le pilote et le profil, les obligations de signalement, les SLA, également là-dessus, il y a possibilité de participer. Alors, ceci étant, je repasse la parole à Angelina. Merci. Angelina au micro. Merci, Francisco. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, première question de Agnieszka Arkia. Si le bureau d'enregistrement ne peut pas avoir accès aux données d'enregistrement pour la personne concernée du nom de domaine, pour le transfert, comment peut-on reconnaître le titulaire du nom de domaine et son adresse? Donc la personne qui a demandé le transfert, et comment peut-on être sûr de la précision des données d'enregistrement qu'il fournit? Jennifer Gore, merci pour cette question. Donc, nous encourageons les bureaux d'enregistrement à travailler ensemble, c'est dans leur intérêt, pour assurer le transfert des enregistrements de manière uniforme. Donc, par rapport au code d'autorisation, c'est en fait la base de ce qui est nécessaire pour le transfert, pour valider les informations associées au titulaire de nom de domaine. Nous vous demandons d'utiliser le nom qui est disponible, que ce soit l'accès au WHOIS ou que ce soit donc travailler avec la partie pertinente pour vous assurer que le titulaire de nom de domaine est bien celui qui est associé au nom de domaine. Merci pour la question.
Question suivante de Chris Spelling. Vous avez parlé du caractère de recherche et de RDAP. Qu'est-ce qui va permettre au RDAP d'avoir cette possibilité de faire des recherches? Merci de cette question, Chris. Francisco au micro. Donc, les critères de possibilité de recherche sont les mêmes. Donc, vous pouvez les trouver à la section 1.10 de la spécification temporaire. Dans cette section, il y a des exigences spécifiques sur les champs qui peuvent être utilisés comme des paramètres pour la recherche et ce qu'il faut entrer comme critère. Le RDAP a actuellement des fonctionnalités de base en termes de recherche pour l'heure et je pense que ça n'est pas suffisant pour être en conformité avec les exigences contenues dans cette section. Donc, le genre de choses qu'il faut chercher d'un point de vue technique pour permettre que le RDAP ait ce caractère de recherche, c'est par exemple de continuer à travailler là-dessus et j'inviterai les gens à souscrire à la liste diffusion du groupe de travail du RDAP et d'ici la prochaine réunion qui aura lieu à Montréal en juillet, nous allons traiter justement de ce caractère de recherche du RDAP Donc, je vous encourage à participer à ces discussions pour essayer d'améliorer les choses aussi vite que possible à ce niveau-là. Merci Francisco. Angelina au micro. Prochaine question de Volker Greyman. Comment est-ce que l'ICANN pense traiter la sous-représentation de l'ICANN concernant le statut contenu dans cette spécification temporaire? Est-ce qu'il y a des objectifs doutable d'un point de vue juridique, et par rapport aux objectifs, on n'a pas besoin des données de FOUIS pour 4.4.4, 4.4.6, nous utilisons des données pour 4.7.7, ça ne s'applique uniquement dans les cas où il y a une demande. Donc les processus auparavant ne peuvent pas s'appliquer. Pour 4.4.10, on n'a pas besoin de données. Les fichiers ne peuvent même pas contenir ces données. Pour 4.4.13, c'est également problématique étant donné qu'on part du principe qu'on peut demander toutes les informations qu'on souhaite. Pour 4.4.2, ce système n'est pas encore défini. Comment est-ce que l'ICANN peut le traiter ? Merci Cyrus Namazi au micro de ICANN.org. Merci de cette question. Il y a toute une série de détails et je ne sais pas si c'est le bon moment pour rentrer dans le détail de tous ces aspects. Mais j'aimerais attirer votre attention et celle de tous ceux qui nous écoutent pour ce webinaire sur le fait de savoir que l'objectif général a toujours été de préserver le statu quo par rapport au processus multiprenante, ascendant, pour s'assurer que nous sommes en conformité vis-à-vis des exigences du RGPD à partir du 25 mai. Beaucoup des questions et questions que vous avez posées sont tout à fait pertinentes, mais je pense qu'on peut en parler au sein de la discussion qu'on va avoir au sein de la GNSO. Et peut-être peaufiner ce que vous considérez comme étant des éléments inutiles ou non nécessaires dans cette politique de consensus adoptée. Je ne veux pas rentrer dans le débat d'une disposition spécifique, mais par rapport à d'où nous avons commencé, où nous allons et par où nous sommes passés, je pense que c'est important. Alors, petit rappel, Angelina au micro, nous allons enregistrer toute cette séance sur ICANN.org, sur le site consacré à la protection des données. Question suivante de Jeff Newman. Lorsque vous expliquez le RDAP à la communauté, assurez-vous qu'il est clair que le RDAP ne veut pas dire qu'un accès à un niveau sera mis en œuvre. Ça veut dire qu'il y aura la capacité de mettre en œuvre le RDAP et de déterminer des rôles en fonction de plusieurs couches ou niveaux. Francisco au micro, merci de cette question, Jeff. Je pense que l'exigence dans la spécification temporaire, ou plutôt l'exigence future, sera de mettre en œuvre le RDAP. Et il est vrai, Jeff, comme vous l'avez dit, que l'exigence consiste à mettre en place un modèle à niveau différencié. Et ça, ça n'est pas couvert par la spécification temporaire. Toutefois, le RDAP, ou plutôt le fait de voir le RDAP comme une option plutôt que la seule option, sachez que le RDAP, c'est une option pour que les gens puissent avoir une solution pour fournir un accès à des fins légitimes.
et ce, à niveau différencié. Donc, vous pouvez le faire de cette manière, mais ça ne fait pas partie de la spécification temporaire pour l'heure. Peut-être qu'à l'avenir, oui. Mais ce que peuvent faire les parties contractantes avant même la mi-décembre, c'est utiliser le RDAP comme un mécanisme pour fournir un accès aux gens qui ont un motif légitime pour y avoir accès, s'ils souhaitent le faire. Merci. Pantelina, micro, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous invite à les poser sur le chat d'Adobe Connect, si c'est le cas. Nous avons une autre question de Volkan Grimens concernant l'annexe 2.6. Par rapport aux services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, qu'en est-il? Volker Cyrus au micro, merci de votre question. Je vais y répondre hors ligne. C'est une bonne question, il faut qu'on approfondisse un petit peu cela. Et j'y répondrai hors ligne d'ici demain ou après-demain. Donc, votre question posée sur la section 2.6. Angelina Micro, oui, autre rappel, vous pouvez envoyer vos questions après la fermeture de cette téléconférence. À l'adresse ican.org Global Support. Merci de cette question, Volker. En fonction du jugement du tribunal allemand, l'ICANN, est-ce que les bureaux d'enregistrement allemands peuvent maintenant collecter des données? Sarah, son micro, Volker et Makele, merci de votre question. En fait, on y a répondu dès l'ouverture de cette téléconférence et on veut se concentrer sur les dispositions de la spécification temporaire pour l'objectif même de cette téléconférence. Deuxièmement, nous sommes sûrs que les dispositions de cette spécification temporaire continueront d'être pertinentes. Si ce n'est pas le cas, nous ferons une annonce dès que nous aurons les informations nécessaires, mais pour l'heure, notre point de vue n'a pas changé, mais sachez que si nous changeons de point de vue, nous vous le ferons savoir aussi vite que possible.
Nous avons une question de Kera Thomas. Est-ce que l'ICANN peut mettre en place le modèle d'accréditation d'accès aussi rapidement que possible? Sarah, merci. Cyrus au micro, merci pour cette question. Oui, cela continue d'être en fait une des parties qui manquent par rapport à une bonne solution en place. Pour l'instant, le conseil d'administration de l'ICANN est en train de considérer les différentes options qui sont disponibles. Il y a des discussions en cours avec le conseil de la GNSO. Nous n'avons pas encore identifié de bonne approche, mais nous devrions prendre une décision rapidement parce que c'est absolument nécessaire. Nous avons une question de Nick Wandam-Smith. Est-ce qu'il y a des directives par rapport à en fait, un objectif légitime? C'est réseau micro. Oui, merci Nick pour cette question. En fait, toute la partie 4, la section 4, est censée être la définition de l'objectif légitime, surtout le 4.6. Qui donne vraiment les détails. Attendez, pardon, c'est 4.5, d'après ce qu'on me dit. Donc, section 4.5. Donc, de notre point de vue, c'est ça la définition de l'objectif légitime ou de l'intention légitime. Autre question de Volker Greimann. En ce qui concerne l'annexe C et le tableau, quel est l'intérêt légitime en tant que contrôleur qu'a le bureau d'enregistrement? Quel est le contrat qui doit être effectué dans le cadre de la discussion des informations non publiques? Ce n'est certainement pas celui avec notre client. Mais c'est le seul qui soit pertinent. Cyrus au micro. Oui, merci pour cette question. Cela revient à la genèse de notre débat sur les principes de ce qu'on a défini dans la spécification temporaire. Je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui poser cette question, donc on pourrait peut-être en parler un petit peu plus pour mieux comprendre votre préoccupation. Mais de notre point de vue, nous avons en fait essayé de faire l'équilibre, difficile à faire, entre la définition de ce qui est requis par la loi et donc la rédaction d'une spécification qui soit utilisable pour tous, pour pouvoir être conforme à la loi. Mais donc, envoyez-moi un message hors ligne pour mieux comprendre votre question. Je ne pense pas que nous puissions plus en parler ici. Alors, s'il y a des questions, envoyez-les par le chat Adobe. Si vous avez des questions par la suite, vous pourrez les envoyer à globalsupport@icann.org. Mais donc, allez-y, c'est le moment d'envoyer vos questions. Sinon, nous allons terminer. Nous avons une question de Jeff. Quel est le calendrier pour le texte de l'amendement d'entièrement et le RRA? Cirez son micro. Oui, merci pour cette question, Jeff. Malheureusement, je n'ai pas de calendrier spécifique à vous donner. L'objectif, c'est de toute évidence que les choses soient faites aussi rapidement que possible en ce qui concerne tout ce qui a lieu en parallèle, donc ce n'est pas forcément évident. Je pense que sur le RRA, on devrait avoir quelque chose à vous donner d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est de l'entièrement des données, c'est un peu plus long. Il y a beaucoup de personnes impliquées. Et une fois que les choses seront plus claires, eh bien, nous pourrons vous faire part des détails. Je pense que ce sera la semaine prochaine au plus tôt. Nous avons une question de Michele. Neylen, est-ce que nous savons lorsque les contrats d'entièrement des données de Milex seront prêts? Cyrus au micro. Merci Michele pour la question. Justement, je viens de répondre à cette question qui avait été posée par quelqu'un d'autre. Donc, la partie contractuelle avec l'ICANN et les agents désignés, donc DENIC, ça c'est fait. Du côté de l'entièrement des données, et donc ce contrat qui est impacté par le RGPD, ça, nous n'avons pas encore terminé le travail. Donc, nous espérons que la semaine prochaine, nous aurons un contrat à vous proposer et donc à vous soumettre. Merci à tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que les informations, donc à la fois l'enregistrement et les diapositives, seront publiées sur icann.org, sur la page de protection des données personnelles. Vous pouvez également envoyer vos questions à globalsupport@icann.org. Merci à tous.